L'auberge à Terracini. L'improvisateur avait montré, durant ce récit, plusieurs signes d'impatience. Il voyait son sujet prêt à lui être arraché, ce qui, pour un grand parleur, est toujours un désagrément. Mais pour un improvisateur, c'est un désastre irréparable. Et encore, se le voir arraché par un Napolitain était un chagrin de plus. Les habitants des parties diverses de l'Italie se portant l'un à l'autre une implacable jalousie en toutes choses, grandes ou petites. Il profita de la première pause que fit le Napolitain pour reprendre le fil de la conversation. « Comme je l'ai déjà fait observer, dit-il, les relations des bandits sont si étendues. Ils ont tant d'union l'un avec l'autre, tant de rapports avec toutes les classes de la société. À ce sujet, dit le Napolitain, on prétend que votre gouvernement a eu quelque intelligence avec cette race d'hommes, ou du moins qu'il a fermé les yeux sur leurs méfaits. « Mon gouvernement ? » dit le Romain avec vivacité. « Oui, on dit que le cardinal Gonzalvi... »« Bah !» dit le Romain, levant le doigt et tournant ses grands yeux autour de la chambre. « Je ne fais que répéter ce que j'ai entendu dire partout à Rome, » reprit brusquement le Napolitain. « On disait tout haut que le cardinal était allé dans les montagnes pour avoir une entrevue avec quelques chefs. On m'a conté aussi que, tandis que d'honnêtes gens étaient à frapper du pied dans l'antichambre du cardinal, attendant l'heure de l'audience, un de ces coquins à figure sinistre avait fendu la foule et était entré sans cérémonie aux présences de Monseigneur. « Je sais, répondit l'improvisateur, qu'on a répandu de tels bruits, et il n'est pas impossible que le gouvernement ait à certaines époques employé ces hommes. Par exemple, au moment de votre misérable révolution, lorsque vos carbonari tourmentaient tout le pays de leurs manœuvres. Quels renseignements pouvaient acquérir ces hommes familiers non seulement avec les retraites et les lieux cachés des montagnes, mais aussi avec les noirs et dangereux repères de la société ? Instruit de chaque caractère suspect, de tous les mouvements, de tous les refuges, de toutes les intrigues qui se pratiquaient, l'utilité de pareil homme, dis-je, placé comme instrument dans les mains des gouvernants, ne pouvait être négligée. Et le cardinal Gonzalvi, en habile politique, en a peut-être fait usage. D'ailleurs, il savait que malgré toutes leurs atrocités, les brigands étaient toujours pleins de respect pour l'Église et la religion. « Religion ! Religion ! » répéta l'Anglais. « Oui, religion ! » reprit le Romain. Chacun d'eux a son patron. Ils font le signe de la croix et disent leurs prières chaque fois que du haut des montagnes, ils entendent les cloches de la vallée sonner les matines ou l'Ave Maria. Souvent, ils descendent de leur retraite et s'exposent au plus grand danger pour visiter quelques saintes reliques. Je puis en citer un exemple. J'étais un soir dans le village de Frascati qui s'élève sur le sommet enchanté d'une colline de la Campanie, au pied même des montagnes des Abruzzes. Les habitants, selon la coutume de nos villes et villages italiens dans les belles soirées d'été, prenaient l'air et causaient en groupe sur la place publique. En conversant avec quelques amis, je remarquai un homme d'une taille élevée, enveloppé d'un vaste manteau, qui traversait la place mais se glissait dans l'obscurité comme s'il eût craint d'être aperçu. Le peuple se retirait devant lui. On me dit tout bas que c'était un bandit fameux. « Et pourquoi ne pas le saisir à l'instant ?» demanda l'Anglais. « Parce que ce n'était l'affaire de personne. Parce que personne ne se souciait de s'exposer à la vengeance de ses compagnons. » Parce qu'il n'y avait pas dans le voisinage assez de gendarmes pour défendre le village contre la troupe de bandits qu'il pouvait avoir à ses ordres. Parce que les gendarmes pouvaient n'avoir pas d'instruction particulière à son égard et ne pas se sentir disposés à engager sans ordre un combat douteux. En un mot, je pourrais vous citer 1000 raisons tirées de notre gouvernement et de nos mœurs et dont pas une, peut-être, ne vous paraîtrait satisfaisante. L'Anglais leva les épaules d'un air de mépris. « On m'a dit, » ajouta le Romain avec quelque vivacité, que même dans votre capitale de Londres, des voleurs notoires, bien connus comme tels de la police, marchent librement dans les rues en plein midi pour chercher leur proie, sans qu'on les inquiète avant qu'ils ne soient pris sur le fait. L'Anglais secoua encore l'épaule, mais avec une expression différente. « Eh bien, monsieur, je suivis de l'œil ce loup audacieux traversant ainsi la bergerie, et je le vis entrer dans une église. Je sentis le désir d'être témoin de sa dévotion. » Vous connaissez l'étendue et la magnificence de nos églises. Celle où il entra était vaste et obscurcie par les ombres du soir. À l'extrémité des longues ailes, deux flambeaux jetaient une faible lumière sur le grand autel. Dans une des chapelles latérales, un siège brûlait en ex-voto devant l'image d'un saint. Le brigand s'était prosterné devant cette image. Son manteau, à demi tombé de ses épaules tandis qu'il s'agenouillait, découvrit un corps d'une force d'Hercule, un stylet et un pistolet brillaient à sa ceinture, et la lueur qui éclairait son visage montrait des traits qui n'étaient pas sans beauté, mais d'une expression fière et menaçante. Tandis qu'il priait, Une vive agitation le saisit. Ses lèvres tremblaient. Des soupirs, des murmures, presque des gémissements jaillissaient de sa poitrine. Il frappait son sein avec violence, serrait et tordait ses mains en les élevant vers la sainte image. Jamais je n'avais vu un aussi terrible tableau du remords. Je craignis d'être remarqué et me retirai. Bientôt, je le vis sortir de l'église, enveloppé dans son manteau. Il traversa de nouveau la place et retourna sans doute à ses montagnes, la conscience soulagée, prêt à se charger du fardeau d'un nouveau crime. Ici, le Napolitain allait se rendre maître de la conversation et avait déjà préludé par la formule menaçante « Cela me fait songer à une circonstance » quand l'improvisateur, trop adroit pour se laisser encore arrêter, poursuivit sans paraître avoir entendu l'interruption. Parmi les circonstances qui, relativement aux bandits, augmentent les dangers du voyageur, il faut mettre les intelligences qu'ils entretiennent quelquefois avec les aubergistes. Plus d'une auberge isolée dans les portions désertes des territoires romains, et surtout dans les montagnes, n'offre que danger et trahison. C'est là que les bandits vont prendre les renseignements. Et le malheureux voyageur, loin de tout secours humain, est livré au poignard de l'assassin nocturne. Les brigandages commis dans ces auberges sont le plus souvent accompagnés des assassinats les plus atroces, car le massacre complet des victimes peut seul assurer la sécurité des assassins. « Je me souviens, ajouta-t-il, d'une aventure, arrivé dans une de ces auberges solitaires des montagnes, qui peut-être, puisque nous sommes dans les histoires des voleurs, aura pour vous quelque intérêt. » Ainsi, assuré de l'attention de l'auditoire dont il avait éveillé la curiosité, il s'arrêta un instant, roula ses grands yeux comme le font les improvisateurs quand ils cherchent à se souvenir d'un impromptu, et rapporta, avec un grand effet dramatique, l'anecdote suivante, qui avait sans doute été préparée et méditée de longue main.